Eh bien aimé, bonjour. C'est la journée que notre Dieu a faite, elle est pour nous un sujet de joie. Alors réjouissons-nous. Réjouissons-nous. L'apôtre Paul disait aux chrétiens, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et pourtant il était en prison, il était enfermé dans un cachot et il parlait, il encourageait les chrétiens d'être toujours dans la joie. Alors vous êtes dans la joie ? Moi je suis dans la joie, parce que le psalmiste disait « Je suis dans la joie quand on me dit… » Ah bon ? Allons faire nos courses ? Non, c'est un temps que nous avons mis à part pour lui. Et je vous en supplie, mes bien-aimés, ne laissez rien venir troubler ce moment si précieux. Ce culte, ce moment que nous consacrons à Dieu, on ne le revivra plus une fois qu'on dira « Amen ». Ça sera du consommé. Et c'est pour cette raison, vous ne revivrez, et moi avec, pas une deuxième fois cette journée. C'est une journée que Dieu a faite, elle est pour nous un sujet de joie. Alors nous devons la vivre. Nous devons croquer dans cette journée et ne rien laisser venir troubler notre paix, notre joie. Amen. Et ce temps devant Dieu cet après-midi, c'est un temps où Dieu nous a permis d'être là. Il y en a qui n'ont pas pu être là. Vous avez un grand privilège, mais aussi une grande responsabilité. C'est d'être ici cet après-midi. Pourquoi ? Parce que quand Dieu donne rendez-vous à son peuple, c'est pour parler à ses enfants. La Bible nous dit que Dieu est un Père pour nous. Jésus dit, quand tu pries, dis notre Père qui est dans les cieux. Et nous avons un Père qui est si bon que quelquefois, quand il nous corrige, ça nous fait mal, mais c'est bon pour nous. Alors cet après-midi, nous sommes là, et j'espère qu'avant de rentrer dans cette salle, chacun d'entre vous, vous avez enlevé les chaussures de vos pieds. Je ne parle pas des chaussures que vous avez là, mais que devant Dieu, vous vous êtes dit, voilà, je vais à la maison de Dieu, je vais lui rendre un culte dans ce lieu, je veux me préparer, je ne veux pas venir de manière un peu à la légère ou de manière religieuse ou habituelle, mais je viens dans ce lieu pour à nouveau faire une nouvelle rencontre avec mon Père Céleste, avec mon Sauveur Jésus-Christ. Pourquoi ? Parce que avec le temps, Jésus, dans nos vies, peut prendre des rides. Jésus peut vieillir dans notre cœur. Si nous ne veillons pas jour après jour à toujours entretenir cette relation avec lui, eh bien, nous pouvons le mettre de côté. Sans même que nous nous rendions compte. Eh bien, cet après-midi, Dieu permet que nous soyons là. Et nous nous sommes préparés, comme je le disais tout à l'heure. Nous avons fait le nettoyage intérieur, mais aussi extérieur. Pour quelle raison je vous dis ça ? Parce que, comme le disait le frère ancien, le frère Gérard Srazel, il disait autrefois, ses parents lui ont transmis des idoles, des saints, qui n'étaient en réalité pas si saints que ça. Le seul qui était sans péché, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est lui qui nous a donné rendez-vous avec Dieu le son Père cet après-midi ici. Pourquoi ? Parce qu'il a dit, là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et Dieu nous dit que je marcherai au milieu de mon peuple. Alors je crois que Dieu est là. Et parce qu'il est là, nous sommes saisis d'une crainte. Nous devons faire attention à ce que nous disons, ce que nous pensons et comment nous regardons les choses. Pourquoi ? Il y a les êtres les plus importants de la planète, les créateurs des cieux, de la terre, de la mer et de tout ce qui s'y trouve. Ils sont ici cet après-midi. Et nous devons laisser le Saint-Esprit saisir notre cœur en disant « Seigneur, tu es là. Je veux faire attention à la façon que je vais te parler, à la façon que je vais penser, à la façon que je vais bouger. » Parce que seul toi mérite toute la gloire. Non pas à nous, Éternel, mais à ton nom, nous sommes venus donner gloire cet après-midi. Et vous savez une chose, c'est que en dehors de Jésus, tout ce que nos parents nous ont transmis comme tradition, ça a été du temps perdu, ça a été du temps gâché, ça a été de l'énergie, de la fatigue, de genoux flexions pour rien du tout. Pourquoi ? Parce que tout ce que nous, autrefois, que nous offrons à Dieu, on offrait à Dieu quelque chose, mais en passant par des intermédiaires qui n'étaient pas si saints que cela. Mais la Bible nous dit dans Hébreux, par lui, c'est qui lui ? C'est qui cet être dont la Bible nous dit, par lui, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous dit, par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, le fruit de nos lèvres qui confesse son nom. C'est-à-dire, toute notre adoration que nous faisons monter vers Dieu cet après-midi a de la valeur, a du sens, que si nous le faisons par Jésus. Parce que le Seigneur Jésus, la Bible nous dit, c'est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ fait homme. Et il est venu d'une manière extraordinaire, c'est qu'il est venu mourir sur la croix pour justement être ce moyen que Dieu donne à tous les hommes pour que nous puissions nous approcher de lui, mais aussi lui offrir quelque chose. Et parce que nos cœurs ont été lavés, purifiés par le sang de Jésus, et parce que nous avons été nettoyés, habillés, nous avons mis tout ce qui était humain, du passé, de la tradition, nous avons jeté ça dehors. Et Dieu nous a habillés, il a fait de nous Jésus-Christ par sa mort à la croix. Il a fait de nous des sacrificateurs pour Dieu. Et nous sommes venus lui offrir nos louanges, nos actions de grâce. Le monde essaye de tuer cela dans le cœur des chrétiens. Mais ils ne peuvent pas le faire. Et plus les chrétiens, plus le monde, plus nous nous sentons oppressés, plus la puissance de Dieu va se développer, va se manifester à travers nos vies. Parce que celui qui habite en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. Alors chrétiens, mes frères et mes sœurs, nous sommes fiers de vous. Oui, nous sommes fiers de vous. Parce que vous êtes des personnes, des bien-aimés courageux, courageuses. Vous sortez de chez vous malgré les restrictions, malgré ce poids qu'on nous met sur nous, et vous venez parce que il y a quelque chose en vous qui est surnaturel, l'Esprit Saint. C'est lui qui vous motive et qui nous motive d'être là pour servir notre Dieu. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors vous êtes prêts cet après-midi? Nous sommes prêts à lui offrir ce qu'il y a de meilleur? Alors allons-y. Prenons la parole de Dieu avec moi, s'il vous plaît. Je vous salue dans le merveilleux nom du Seigneur Jésus. C'est ma façon à moi de vous souhaiter meilleurs vœux. Hein. Ça y est, j'ai fait la commission. Je vous ai souhaité mes vœux en Jésus-Christ, de cette façon que je viens de vous parler. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Qu'il vous bénisse encore. Dans Luc, vous avez la Bible à la main, vous attendez, vous êtes prêts pour qu'on aille faire un tour dans ce merveilleux pays qui est la parole de Dieu. Et dans ce pays, Dieu disait à son peuple, le pays de Canaan, c'est un pays qui est riche, il y a du lait, il y a du miel, et la parole de Dieu, c'est ainsi. Elle fait du bien à notre âme. Quand nous la lisons, quand nous passons du temps devant elle, le Saint-Esprit nous fait du bien. Alléluia. Mes bien-aimés, Luc chapitre 9, à partir du verset 57. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Ça, c'est le premier homme qui commence à dire à Jésus, ce n'est pas Jésus qui l'appelle, mais c'est lui qui décide de suivre le Seigneur Jésus. La réponse du Seigneur Jésus se fait, Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Vous êtes d'accord avec Jésus ? Ok. Mais, voilà, le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. C'est-à-dire, tu veux me suivre, mais sache que si moi, le Fils de l'homme, j'ai pas un endroit où poser ma tête, toi aussi tu n'auras pas un endroit où poser ta tête. Et que ça sera pas une vie de plaisancier ou de vacances de me suivre, dit Jésus. La vie chrétienne, mes bien-aimés frères et sœurs, le jour où Jésus nous a appelés à le suivre, il ne nous a jamais promis que tout ira bien, tout sera merveilleux. Mais il nous a dit une parole sur laquelle nous devons nous appuyer jour après jour. Il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Vous voyez, il nous a pas dit que tout ira bien, tout sera merveilleux. Ce Jésus-là, si quelqu'un vous dit en acceptant Jésus, tout sera merveilleux, quelque part il vous trompe. Il ne vous dit pas la vérité. Mais Jésus nous dit la vérité. Il nous met devant un choix que nous allons faire, mais aussi la responsabilité, les conséquences de ce choix. Mais il nous promet d'être avec nous tous les jours, dans les bons comme dans les mauvais moments. Deuxième intervention, il dit, c'est lui Jésus qui le dit, il y a un homme qui vient qui dit à Jésus, qui se propose de le suivre. Mais Jésus dit à un homme, à un autre, verset 59, il lui dit, suis-moi. C'est une invitation à le suivre. C'est-à-dire, si Jésus te demande de le suivre, c'est qu'il te prendra en charge du 31 décembre jusqu'au 1er janvier. Qui cet après-midi peut dire, en tant qu'enfant de Dieu, durant l'année 2020, que Jésus n'a jamais été fidèle? Il a été fidèle depuis 31 décembre 2019, jusqu'au 1er janvier 2021, ou 31 décembre 2020. Ça, c'est la fidélité de Dieu et du Seigneur Jésus. Jésus lui dit à cet homme, suis-moi. Comme nous, cet après-midi, un jour, Jésus nous a appelés à le suivre. Et il répondit, cet homme répondit à l'invitation de Jésus de le suivre, il dit, Seigneur, permets-moi d'abord d'ensevelir mon père. Il présente à Jésus une situation comme si Jésus, en l'appelant lui, Jésus ne savait pas qu'il se trouvait dans cette situation. Jésus savait que cet homme avait perdu son père. Mais malgré tout, Jésus l'appelle. Jésus aurait dû appeler quelqu'un qui n'est pas dans une situation comme cela. Mais Jésus l'appelle, il lui dit, toi, suis-moi. Et regardez la réponse, il dit, mais Jésus, il dit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Le pasteur Claude a dit tout à l'heure qu'il a fait, depuis un certain temps, beaucoup d'ensevelissements, beaucoup d'enterrements. Et ça nous montre que la mort n'agit pas qu'aujourd'hui, c'est depuis, même avant, depuis Adam et Ève ont péché. Je poursuis. Mais Jésus lui dit, le fait que cet homme lui dit, laisse-moi aller ensevelir mon père. Jésus lui répondit, lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts. Laisse les morts ensevelir leurs morts. Ça veut dire que les morts, c'est mort. Il n'y a pas de vie. Je le disais tout à l'heure, ce sont les vivants qui louent Dieu, ce ne sont pas les morts. Quand quelqu'un est mort, c'est fini. Tu peux essayer de le réveiller, il ne va pas bouger, à moins que Dieu le ressuscite. Et Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts. Et toi, va annoncer, voilà le travail que je te donne, va annoncer le royaume de Dieu. Un autre, un troisième bonhomme arrive. Et cette fois-ci, un autre dit, parle à Jésus. Il dit à Jésus, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Vous avez remarqué, il ramène Jésus toujours aux choses de la terre. Toujours aux choses de la terre, il ramène Jésus. Jésus les invite pour aller vers les choses du ciel et eux, ils veulent ramener Jésus vers les choses de la terre. C'est un combat permanent entre la chair et l'esprit. Dans le cœur des enfants de Dieu, il y a une lutte constante. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit « Soyez remplis du Saint-Esprit ». Et si nous sommes remplis du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu prendra toujours le dessus sur la chair. Et il nous poussera toujours à rechercher, à ne pas rester à la maison, à toujours rechercher la communion fraternelle, à venir au sein du peuple de Dieu, malgré tout ce que nous vivons. L'Esprit de Dieu nous poussera à nous retrouver ensemble. Parce qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble. Parce que c'est là que Dieu envoie la bénédiction. Et tu es là cet après-midi, l'Esprit de Dieu te saisit déjà, agit déjà en toi. Pourquoi ? Pour te bénir et pour te faire du bien. Je poursuis mes bien-aimés. Jésus lui répondit, et c'est ça qui nous intéresse là, Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue, je dis stop, quiconque met la main à la charrue, et je vous pose une question, tout de suite, d'emblée, quels sont ceux et celles qui ont mis la main à la charrue? Moi, je lève les deux mains. Alors, vous me direz, mais la charrue, c'est un instrument pour les fermiers, les agriculteurs, pour labourer, pour remuer le sol. Oui, mais nous transposons cela spirituellement. La charrue, c'est un morceau de bois dont l'agriculteur, le fermier, va, avec une sangle, va s'accrocher à la charrue, et il va prendre les deux morceaux de bois, qui sont là, comme les trucs de moto, là, et et les deux bœufs, ou un cheval, qui va tirer la charrue, pour qu'il puisse faire le travail dans la terre. Mais mes amis, la charrue, que chacun de nous, dans laquelle nous avons mis notre main, c'est la croix du calvaire. Nous avons touché à un morceau de bois, mais pas n'importe quel morceau de bois. C'est un morceau de bois sur lequel Christ est mort. C'est un morceau de bois sur lequel le sang de Jésus a coulé. Et ce morceau de bois a de la valeur parce que Jésus était dessus. Mais une fois que Jésus a été enseveli, retiré de la croix, ça n'avait plus aucune valeur. C'est Jésus qui donnait de la valeur à la croix. Comme le parfum que Marie a déversé sur Jésus, ce n'est pas tant le parfum qui avait de la valeur, mais le parfum a pris toute son essence parce qu'il a touché le corps de Jésus. Et ce parfum a rempli, Jésus a donné de la valeur à ce parfum. Mes amis, nous avons touché à la croix. Le jour que Dieu nous a appelés à Jésus-Christ, nous avons touché à quelque chose de saint. Et c'est pour cela que Dieu nous dit, quand tu touches, quand tu mets ta main à la charrue, quand tu t'engages avec Christ, tu n'as pas le droit de regarder en arrière. Tu n'as pas le droit de faire comme Madame Lot, qui a reçu un ordre de la part des anges, mais malgré tout, elle s'est retournée. Elle a regardé en arrière. Et en regardant en arrière, vous connaissez la suite de l'histoire. Elle s'est transformée en statue de sel. Pourquoi ? Elle n'était plus physiquement à Sodome, mais son cœur y était. Elle avait oublié encore quelque chose à Sodome. Elle avait laissé quelque chose qu'elle aimait à Sodome. La Bible nous dit, n'aimez pas le monde, ni ceux qui est. Dès que nous avons touché à la charrue, dès que nous avons mis la main, nous avons dit oui à Jésus, nous nous sommes engagés à marcher avec lui, nous n'avons plus le droit de regarder en arrière. Pour quelle raison ? De peur que nous soyons pétrifiés sur place. De peur que Satan nous saisit et nous bloque et nous empêche d'avancer. Et peut-être certains cet après-midi, ils disent « Mais pourquoi je ne porte plus de fruits ? Pourquoi il n'y a rien qui va ? Pourquoi je n'avance pas ? Pourquoi je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas ?» Peut-être tu as dû regarder en arrière. Satan a dû ramener à tes pensées les choses du passé. Mais tu dois te lever au nom de Jésus. Tu dois lui dire « Non, je veux garder mes yeux fixés sur Jésus-Christ, le chef et le consommateur de ma foi. » Gardez nos yeux fixés sur Jésus. On a touché à la croix. On a mis la main à la charrue. Et vous allez voir ce que la parole de Dieu nous dit. Vous voulez que je vous lise quelque chose ? Matthieu 16. Matthieu 16. Je ne vais pas vous demander si ça va, je sais que ça va. Matthieu 16. Et le verset, j'ai noté, 24, je crois. C'est bien ça ? C'est ça, hein ? Confirmez, s'il vous plaît. Parce que mes frères derrière m'ont abandonné. Vous devant confirmer. Alors, verset 24. Alors, il confirme derrière. Alors, Jésus dit, à qui ? À nous, ses disciples, à nous, ses disciples, à nous qui sommes là cet après-midi. Jésus nous dit une parole, écoutez bien cette parole, liée à ce que je viens de dire dans Matthieu, où j'ai lu Luc 9, 61. Celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est plus utile pour les choses de Dieu. Et Jésus dit ici, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, c'est-à-dire veut me suivre, qu'il, premièrement, qu'est-ce qu'il doit faire ? Nous avons renoncé à quoi, mes amis, mes frères et sœurs ? Nous avons décidé de nous engager, que ça aille, que ça n'aille pas, jusqu'au bout avec Jésus. Amen. Jusqu'au bout, nous avons décidé, nous avons fait un choix, un engagement en disant « Seigneur, je te suivrai jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Que je sois malade, que les médecins me disent ceci ou cela, ce n'est pas cela qui influence mon attachement à toi, ni ma consécration, mais quoi qu'il arrive, je veux rester attaché à toi. » Parce que l'apôtre Paul disait, Christ est ma vie. La mort, c'est un gain. Et lui, il avait compris. Lui qui a vécu tant de tribulations, il avait compris que rien ne pouvait, lui, le séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Rien. Pas même les épreuves. Pas même les faux frères. Pas même ceux qui le jugeaient. Rien, même la condamnation, ni la mort, ni rien ne pouvait le séparer de l'amour de Dieu manifestant. Il s'était engagé et il ne voulait pas regarder en arrière. Et il allait même à dire, tout ce qu'il avait acquéri comme connaissance au pied de Gamaliel, qui à l'époque était un maître, un expert dans les choses de la loi, et cet homme, ce maître, avait instruit Paul, dans les choses de la loi de Moïse. Et il avait tellement bien instruit Paul que Paul était irréprochable. Et Paul disait, tout ce qu'il avait appris, ces choses, il les regardait comme de la boue, comme rien. Pourquoi il ne voulait pas se retourner, ni donner de la valeur à ces choses. Et c'est pour cela que je vous disais tout à l'heure, qu'est-ce qui a de la valeur à ton cœur, à notre cœur? Quelle est la chose qui a le plus de valeur? C'est Jésus. Et si nous laissons notre cœur être contaminé par autre chose, comme la femme de Lot, nous allons donner de la valeur à cette chose-là. Là où est ton trésor, là où sera ton cœur. Où est ton trésor? Qui est ton trésor? Est-ce que c'est Jésus-Christ? Est-ce que c'est la parole de Dieu? Eh ben, si c'est Jésus, si c'est sa parole, alors tu es en route pour le ciel. Je ne dis pas en route pour le cercueil ou la morgue, je dis en route pour le ciel. Amen. Et on va un peu plus loin. Matthieu 16, 24. C'est bien ça, hein? Il dit, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. La première des choses, renoncer à soi-même. Et Dieu sait combien il y a des choses qui nous préoccupent, des choses, comme on dit, personnelles. Dieu dit, ces choses-là, si tu veux me suivre, ce sont des choses qui vont être comme des liens qui vont t'empêcher de marcher librement avec moi. Eh ben, écoute, tu dois y renoncer. Nous sommes dans une période de crise. Crise sanitaire et crise financière. Et il y a des enfants de Dieu qui sont dans des situations précaires. Ils ne doivent pas s'inquiéter, ces enfants de Dieu-là. Mais ils doivent plus que jamais rester confiants parce que Dieu tient les corbeaux. Dieu tient tout, l'or et l'argent lui appartient. Il est capable de faire ce qui est au-delà de ce que vous pouvez espérer. Vous dites pas amen? Si vous ne dites pas amen, vous allez manger le croûton de pain. Mais si vous dites amen, Dieu va vous donner en abondance, même pour donner à vos voisins à côté. Parce que le Dieu que nous servons, qui est notre Père, il ne connaît jamais la faillite. Il n'a jamais connu la faillite. Il est riche, mais riche pour ceux qui le craignent. Riche pour ceux qui lui font confiance. Il est riche pour nous, son peuple, à qui il dit, je ne t'abandonnerai jamais. Je ne te délaisserai point. Alors, peuple de Dieu, ne t'inquiète pas. Dieu prend soin de toi dans les moindres détails. Tu peux lui faire confiance. Crise financière ou pas, il t'a fait une promesse. Je ne vais pas t'abandonner, je ne vais pas te délaisser, mais je prendrai soin de toi. Amen. Et comme j'ai l'habitude de dire entre parenthèses, il peut réveiller l'homme le plus riche de Paris. Dans son sommeil, Dieu peut lui parler, peut lui dire « lève-toi ». Il se lève comme un somnambule. Il dit « va dans ton bureau ». Assieds-toi, prends ton carnet de chèques et tu mets un 1 devant et tu mets au nom de telle personne. Vous auriez aimé que ça soit votre nom, hein? N'allez pas jouer au loto, vous n'allez jamais gagner au loto, entre parenthèses. Vous m'avez entendu? N'allez jamais gratter, vous n'allez jamais gagner. Les trois télés. Alors comment tu sais ça, Christophe? Ben parce que je regarde. Mets un devant et tu le mets à l'adresse que je te dirai. C'est bien Jésus qui a parlé à Ananias. Jésus savait à l'adresse où se trouvait Paul, Saul de Tarse. la rue qu'on appelle la droite. C'est précis, le Saint-Esprit donne l'adresse exacte. Et quand Ananias est arrivé, il a mis son GPS du temps à l'époque, il arrive exactement là où était Paul. Dieu ne se trompe jamais. Dieu connaît tes besoins, mon frère, ma sœur. Il est capable de faire ce que je suis en train de te dire. Il est capable de toucher le cœur de qui il veut et de te donner ce que lui, il veut, il mettra dans le cœur de cette personne afin de combler exactement ce qui te manque. Tu dis amen à ça ? Tu vas le vivre. Que ça soit aujourd'hui, demain ou au courant de l'année, tu vas vivre des choses surnaturelles avec ton Dieu. Et tu pourras aller dire aux autres, mon Dieu est riche, il est bon, il est fidèle et il est juste. Amen. Ton témoignage sera puissant. Ça sera pas du témoignage que tu as regardé à la télé ou sur les réseaux sociaux pour aller dire oui, un monsieur, une dame. Ça ne te concerne pas parce que tu ne l'as pas vécu. Et Dieu veut que tu vives les choses avec lui, les expériences qui marquent une vie chrétienne et qui a du poids quand tu parles à quelqu'un. C'est du vécu, monsieur. C'est du vécu, madame. Je l'ai expérimenté. Mon Dieu est vivant. Mon Seigneur Jésus est vivant. Alléluia. Alléluia. Je poursuis. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Premièrement, qu'il se charge de... Voilà le morceau de bois qui arrive. Voilà la charrue qui arrive. Qu'il se charge. Est-ce que la croix de Jésus est trop lourde pour toi ? Non, je dis non. Parce que la Bible dit que Dieu ne permettra pas que tu seras tenté au-delà de tes forces. Dieu ne peut pas permettre une épreuve dans ta vie qui est trop lourde pour toi. C'est peut-être toi qui t'es mis dans la situation. Si la chose est trop lourde pour toi, c'est toi qui t'y es mis. Alors reviens, demande pardon, repens-toi et à nouveau reprends la croix. Parce que Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et je vous donnerai du... Et il dit ceci, prenez mon joug. Pourquoi ? Parce que mon joug est doux et mon fardeau est... Alors ne dites pas que c'est Dieu qui met un joug sous vos épaules. C'est vous-même. À cause de vos décisions, sans consulter Dieu, vous vous êtes engagé dans des situations, dans des rues étroites. Et pourtant, Dieu avait mis un boulevard devant vous pour que vous soyez à l'aise. Mais vous êtes engouffré dans un ruelle, dans un petit sentier. Et là, vous êtes tous serrés dedans. C'est à peine si vous pouvez donner quelque chose avec le superflu. Vous ne pouvez pas le faire parce que vous êtes, on dit, vous êtes serré, vous êtes juste. Vous êtes pris à la gorge. Mais je ne veux pas que vous vous trompez du Dieu que vous servez, que nous servons. Il est riche. Et je peux vous dire, il a de la largesse. Et il disait même à son peuple à travers d'un prophète, il disait qu'il voulait que on élargit le champ, on desserre les filets. En gros, on élargit un peu notre cœur, on desserre notre cœur parce que il veut nous bénir. Pourquoi avoir un cœur étroit ? Pourquoi voir en Dieu un Dieu étriqué, juste contre ? Non ! Il est riche, il est rempli de bénédictions. Mettez-le à l'épreuve. Et vous verrez combien cette année sera riche en bénédictions, riche en expériences spirituelles. Combien vous verrez le Dieu que vous servez, que nous servons, combien il est grand et il est tout puissant. Il dit ceci, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Voilà la charrue qui se présente devant nous à nouveau. Et cette charrue que un homme dans la parole de Dieu a touchée un jour. Cet homme a mis sa main, comme vous et moi un jour, à la charrue. Et je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête. L'Écriture nous le donne un petit peu. Il nous dit que cet homme a abandonné Paul, le serviteur de Dieu, par amour pour le siècle présent. Il a laissé son cœur être enrobé, contaminé, pas par le virus, mais contaminé par l'amour du présent siècle. Il est tombé amoureux de ce qui se passait à l'époque. Et il a trouvé que ce qui se passait à l'époque avait beaucoup plus de valeur que Jésus-Christ dans son cœur, ou que d'être avec le serviteur de Dieu, de l'épauler, de marcher avec lui. Il a trouvé que les choses du monde avaient beaucoup plus de valeur que de souffrir pour Christ. Et un jour, comme vous et moi, il avait mis la main, où ça ? À la charrue. Et parce que je ne sais pas comment il tenait la charrue, s'il le tenait avec une main ferme ou avec une main légère, c'est-à-dire avec une vie chrétienne un peu à la légèreté, « Oh oui, je peux me permettre de faire ça », ou est-ce qu'il était ferme dans ses voies ? S'il y était, il n'aurait jamais lâché la main de Jésus. C'est parce qu'il n'était pas ferme dans ses voies, dans son cœur. Celui qui est ferme dans ses résolutions, dit la Bible, le Seigneur lui assure la paix. Quand nous sommes fermement décidés de marcher avec lui, le monde nous fait des appels de phare, on ne se retourne pas. Le monde ne nous a pas donné grand-chose. Le monde ne nous a pas apporté grand-chose, mes amis. Et ce que Dieu permet que nous avons dans ce monde-là, c'est les autres qui vont en profiter. Parce que nous sommes appelés à quitter ce monde, parce que nous sommes passagers et pèlerins. Alléluia. Nous sommes de passage. Nous sommes en transit. Nous attendons le vol en direction du ciel. Et bientôt Jésus va revenir. Chacun d'entre nous, il a mis entre nos mains quelque chose, un passeport. Et ce passeport, c'est la foi. La foi que nous avons en lui, que nous avons placée en lui, c'est cette foi. C'est ça notre passeport pour le ciel. Ce n'est pas les dons, ce n'est pas le parler en langue ou autre, ce n'est pas ce que nous tenons comme connaissance. Non, tout cela va disparaître. La foi, la charité, c'est ce qui va demeurer. Nous sommes sauvés en espérance et nous sommes appelés à ne jamais nous relâcher. Parce que nous avons touché à la croix. Nous nous sommes engagés. Nous avons pris notre croix. Nous nous sommes chargés de notre croix. Et nous sommes déterminés, mes bien-aimés. Vous l'êtes cet après-midi. Je suis en train de vous communiquer, moi, ce que je vis, ce que Dieu me donne de vivre. Quoi qu'il arrive, à la mort et à la vie, attaché à lui. Le monde ne m'a rien donné. Et vous avec, mais Christ, Dieu m'a tout donné en Jésus-Christ. Nous avons tout pleinement en lui. Alors gardons nos yeux bien fixes. Mettons, comme on appelle ça, des œillères. Merci, pasteur Claude. Mettons des œillères. Et ne nous laissons pas distraire. N'aimons pas le monde, ni ce qui se passe dans le monde. Celui qui aime le monde, dit la Bible, l'amour du Père ne demeure pas en lui. Si tu aimes le monde et tu viens dire à Dieu au culte, « Oh Dieu, je t'aime », Dieu dit, « Tu es une menteuse, tu es un menteur. » Parce qu'en réalité, tu dis que tu m'aimes, mais ton cœur est partagé. « Tu m'honores de tes lèvres, mais ton cœur est éloigné de moi, dit Dieu. Mais je veux que tu sois là, tu es là cet après-midi, je veux que tu sois là, corps, âme et esprit. » Je ne veux pas que tu sois là en même temps, tu penses à ce que tu vas faire dans 10 minutes et tu as hâte que la réunion se termine. Mais je vais me tenir jusqu'à 22 heures. Couvre-feu ici. Non, je vais m'arrêter dans quelques temps, dans quelques minutes. Ça c'est la minute antillaise. Quand on te dit dans quelques minutes, ça veut dire dans une demi-heure. Enfin bref. Dans quelques minutes à la française. Il dit ceci. La charrue, c'est la croix de Jésus. Cet engagement, le jour où nous lui avons donné notre vie, on s'est chargé de la croix. Et il dit qu'il me suive. Et il dit, car au verset 25, celui, il parle à ses disciples, il dit celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Si tu aimes ta vie, ici-bas, tu la perdras. Mais si tu acceptes de mourir à toi-même et que tu acceptes de vivre pour Christ, de te consacrer à nouveau, tu dis « Seigneur, l'année se termine, j'ai des projets, j'ai des ambitions, j'ai des nouvelles, comment on appelle ça ? Des nouvelles ambitions. » Dieu dit oui, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. C'est-à-dire, pour que tes ambitions puissent tenir, il faut que tu restes attaché à moi. Il dit, car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, voyez, à cause de moi, la retrouvera. Où ? Dans le royaume de Dieu. On poursuit. J'ai parlé de Démas, c'est bien lui. Nous allons le lire, ça, cette histoire de Démas. C'est dans 2 Timothée. Seigneur Jésus. 2 Timothée, chapitre 4. Vous l'avez trouvé ? J'ai noté, pour ceux qui prennent des notes, la charrue n'est pas un jouet. La croix, c'est pas un jouet. C'est pas quelque chose avec lequel on peut jouer. Quand on s'engage, c'est du sérieux. C'est pas à des enfants que Dieu parle. Dieu parle à des hommes et des femmes responsables. Vous n'êtes pas des gens qu'on vous oblige à faire les choses. Soit vous obéissez, soit vous n'obéissez pas. Soit vous êtes enfant de Dieu, soit vous ne l'êtes pas. Soit vous êtes né de nouveau, soit vous ne l'êtes pas. Et voilà ce qu'il dit. Démas, l'apôtre Paul, il dit ceci, au verset 7, chapitre 4, verset 7, « J'ai combattu, dit Paul, le bon combat. » Il pouvait le dire parce qu'il avait traversé les tribulations, les épreuves, en étant attaché à Jésus. Pour lui, sa vie ici-bas, il ne faisait aucun cas. Il n'avait qu'un désir, c'était de quitter ce corps pour aller rencontrer son Seigneur. Et qu'il l'avait rencontré sur le chemin de Damas de manière puissante. Mais il voulait rencontrer cet homme, Jésus, dans le ciel. Il voulait y aller. Alors il dit ceci, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. » Et il rajoute, « J'ai gardé la foi. » Lui, il parle de lui, l'apôtre Paul. Ensuite, il dit, « Désormais, la couronne de justice m'est réservée. » Alléluia. Voilà ce qui nous est réservé dans le ciel, couronne de justice. Il y en a plusieurs de couronnes. Couronne de gloire. « Le Seigneur, le juste juge, me la donnera. » C'est Jésus lui-même qui va honorer son serviteur. Jésus, quand on sera devant lui dans le ciel, il se lèvera pour chacun, chacune d'entre nous. Il nous appellera, sois vaillant, vaillant soldat, fidèle serviteur, courageux, courageuse, viens, voilà ta récompense. Et entre dans la joie de ton maître. Il dit ceci, le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à qui ? À tous ceux qui auront aimé son avènement. Nous sommes en train d'arriver tout doucement vers l'avènement du Seigneur Jésus. Son deuxième retour sur la terre, sans qu'il mette les pieds sur le sol de cette terre. Il reviendra, son avènement, mais il restera entre ciel et terre. Et c'est nous qui irons vers lui. Mais il dit, il y a quelque chose qui nous attend, cette couronne de justice pour ceux et celles qui ont aimé, c'est-à-dire qui ont chéri, qui n'avaient les yeux que sur lui, en disant, viens Jésus, viens, ce monde, j'en ai assez, ce monde part, devient fou, ce monde est en train de tituber, mais je ne veux plus rester ici, viens Jésus, si nous ne le disons pas, si c'est comme si vous me dites, viens Christophe, si tu me dis, viens Christophe, je viendrai parce que je sens que ton cœur y est. C'est un appel. Tu veux que je sois là, à côté de toi. Viens. Mais si tu me dis viens, je viendrai pas. Parce que je sens pas que tu veuilles vraiment que je vienne à côté de toi. Eh ben, Jésus, nous devons, nous, l'église de Christ, nous devons lui dire, viens, Jésus. Viens. Maranatha, viens bientôt. Viens nous chercher, Seigneur. On attend ton retour. On chérit cet avènement jour après jour. Nous levons, nous pensons à toi. C'est pas que nous pensons à nos affaires, mais nous pensons à toi. Et combien se lèvent et tout de suite pensent à autre chose avant de penser à Jésus. Faites cette merveilleuse expérience. Levez-vous, à peine levé, Seigneur, tu n'es pas venu, mais je souhaite, j'espère ta venue aujourd'hui. Et chaque jour, comme ça, en espérant sa venue, ça veut dire quand il viendra, tu ne seras pas surpris. Il te trouvera la tête levée et voyant les choses bouger dans le ciel. Vous pourrez le voir avec vos yeux, mais avec un corps qui est changé, transformé. Et il dit, je finis, au verset 9, il dit, viens, il parle à Timothée, viens au plus tôt vers moi, car Démas a retiré sa main de la charrue. Démas m'a abandonné. Démas a déposé sa croix dont il s'était chargé quand il a rencontré Jésus. Il était plein, fougueux, il rendait témoignage, mais il a déposé la croix. Il a mis la charrue de côté. Le champ dans lequel Dieu l'avait mis pour travailler, ce champ est devenu en friche, le champ de ton cœur. Il y a à nouveau des mauvaises herbes qui sont revenues, de l'amertume, des mauvaises pensées, des luttes, des nuits blanches, des combats. Pourquoi ? Parce que tu as déposé la charrue. Tu n'es plus en activité, tu es au bord du chemin. L'aveuglement spirituel t'a saisi, la paralysie t'a saisi, le froid de ce monde t'a saisi. Mais Dieu veut cet après-midi que tu ne fasses pas comme Démas, mais que tu restes ta main comme cet homme qui a tellement combattu l'ennemi dans un champ de lentilles pour défendre ses lentilles. Eh ben, ce monsieur aimait tellement le champ de lentilles, c'est même pas le champ de lentilles, c'était défendre la cause d'Israël. Tellement qu'il a combattu l'ennemi, l'épée est restée collée à sa main. Quand on lui a dit, lâche ton épée, ça y est, l'ennemi est vaincu, l'épée est restée collée à sa main. L'épée faisait un avec lui. Mes amis, mes bien-aimés frères, que la parole de Dieu soit comme un avec vous. Tellement que vous cherchez à vous imprégner de ces choses, de rester attaché à elle. Et au moindre problème, tout de suite, vous prenez la parole de Dieu. Le Saint-Esprit va chercher au plus profond de votre cœur une parole qu'il avait déposée il y a des mois ou des semaines pour que cette parole remonte en surface et que vous puissiez le confesser dans le moment difficile. Démas a mis sa charrue de côté. Son champ est devenu en friche. Et il a préféré aller travailler dans le monde. Il a préféré s'occuper des choses du monde, par amour, parce que quand si vous n'aimez pas les choses du monde, vous pouvez pas y aller. Mais son cœur a été saisi, comme le cœur de Madame Lot, qui n'était plus à Sodome, mais quand elle s'est retournée de là où elle était, elle a regardé vers Sodome. Son cœur était encore attaché aux choses de cette ville maudite que Dieu a détruite par le feu. Mes amis, ce monde est appelé à être détruit par le feu. Alors c'est le moment de regarder dans notre cœur. Est-ce que nous avons mis de côté la charrue? Est-ce que nous avons posé? Et je peux vous dire, même si c'est un bout de la croix que vous vous êtes déchargé en disant c'est trop lourd, ne le faites pas s'il vous plaît. Ne le faites pas. Certains courent dans la vie chrétienne. Ils courent tellement que quand ils passent, on les... On dit, mais déjà, il vient d'arriver, il court, il est dans les choses comme ça. D'autres marchent, d'autres sont assis, d'autres se sont arrêtés. Mais si tu es dans le cas de ces personnes que je viens de citer, il y a la grâce de Dieu ici cet après-midi. Pour celui qui marche, qu'il continue à marcher. Pour celui qui court, continue à courir. Pour celui qui est assis, lève-toi et marche au nom du Seigneur Jésus. Pourquoi ? Parce que le chemin est encore long, mais le bout du tunnel, on le voit apparaître. La Bible nous dit que Jésus est à la porte. Nous devons le voir avec les yeux de la foi comme déjà à la porte. Et il est à la porte, il n'attend qu'une chose, il est déjà en train de faire quelque chose, c'est qu'il... Il est en train de frapper cet après-midi à la porte de ton cœur en disant « Ma fille, mon fils, viens m'ouvrir. Tu as mis de côté la charrue, tu t'es occupé, tu es assis devant une série américaine et que tu engurgites des... comme ça. Laisse ça et viens m'ouvrir la porte parce que je vais remettre de l'ordre dans ta vie. » Il peut le faire cet après-midi à une condition. Que tu exerces l'hospitalité, pas pour n'importe qui, mais pour ton Seigneur. Rendez-vous compte, il est à la porte et il frappe. Et il dit, si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre, je rentrerai et je souperai avec lui. Et lui, avec moi. C'est-à-dire, il y a un échange. Ce n'est pas un monologue, mais c'est un échange, une communion, une relation personnelle avec toi et avec ton Sauveur. Tu dis amen, mon frère, ma sœur. Je vais m'arrêter dans 3 minutes. Viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Et il est parti où ? À Thessalonique. Il est parti dans une ville, peut-être côtière. Côtière. Qui dit ville côtière, c'est un peu comme si tu pars à Cannes, à Nice ou au bord de la mer. La vie n'est pas pareille entre bord de mer et la ville. Il y a plus la chaleur, le soleil, les divertissements. Eh bien, cet après-midi, Dieu voulait nous donner, nous encourager, mais aussi nous interpeller pour que nous ne puissions pas mettre de côté la charrue, mais que nous restions dans le champ qu'il a mis devant nous et que nous acceptions. C'est dur comme labeur. Être agriculteur et travailler, remuer la terre avec le socle, pour pouvoir ensuite semer dans la paix, dans la justice, dans l'amour. Dieu veut remuer à nouveau le terrain de notre cœur et il veut se servir de nous parce que la Bible dit que la moisson, elle est immense, mais il y a peu d'ouvriers. Et il dit, priez le maître de la moisson pour qu'il puisse envoyer des ouvriers dans sa moisson. Inclinons notre tête et nous allons prier quelques instants.